bruitage, justement.
En général, on est dans un studio d'enregistrement. C'est un peu un lieu comme ici où on n'entend pas un bruit. Il y a plein de machines, des très bons micros comme celui-là. Il y a souvent ce qu'on appelle un ingénieur du son. C'est un monsieur qui est, voilà, qui connaît très bien les micros, qui sait quel micro prendre parce qu'on n'utilise pas toujours les mêmes micros. Il sait bien enregistrer et placer le micro surtout. Vous avez vu, depuis tout à l'heure, il me suit pour bien avoir le son. Parce que s'il reste là, et moi je me mets ici, ça va être compliqué quand on va réécouter parce que ma voix sera proche ou loin. Voilà. Mais ça peut être voulu. Peut-être que pour un film, ça peut l'intéresser d'avoir une voix un peu éloignée. Ça, tout ça, c'est le travail d'un ingénieur du son. Moi, ce n'est pas mon métier, mais j'ai appris à le faire un petit peu, à placer des micros. Donc, on travaille avec une équipe, voilà. Et alors, des fois, si par exemple, j'ai un film qui se passe dans une ville, moi, je peux aller dans la ville, dans une ville qui me plaît, et enregistrer des sons avec un micro. Je me promène et j'enregistre des sons de ville.
Voilà, c'est terminé pour la première partie de notre émission.
On se retrouve la semaine prochaine pour la fin de cette interview.
Au revoir.
bonjour à tous, vous êtes bien sur Radio Libertaire 89.4. Vous allez écouter l'émission Bibliomanie, avec aujourd'hui présentée par Valère Marie Marchand, avec à la technique Flo Descailloux qui nous réservera, je n'en doute pas, certaines surprises. Et nous avons la grande joie de recevoir Toby Nathan pour un roman que j'ai beaucoup aimé. Pour cette rentrée littéraire, et si c'était une nuit, ce qui vient de paraître aux éditions Stock. Puis nous parlerons un tout petit peu d'un autre livre que j'ai aussi beaucoup aimé, qui s'appelle Ethnomythologique, petits objets du quotidien. Et oui, ces petits objets qui nous suivent partout, c'est aussi paru aux éditions Stock. Toby Nathan, bonjour.
Bonjour.
Alors, on s'était vu pour votre précédent roman, oui. Je crois. Hein, on avait eu une petite discussion. Même.
Oui, je me souviens, c'était bien agréable.
C'était bien agréable. Hein.
Oui.
Et puis là, j'ai lu, alors avec grand bonheur, « Et si c'était une nuit ». D'abord, j'ai adoré le titre, parce que vous qui êtes un conteur, je trouve que tout de suite, on est dans la tonalité de la mythologie, de la nuit et de la parole. Et il y a trois thèmes, je pense, dans votre livre. C'est l'enfance, l'exil et le départ. Est-ce que je me trompe ou... Parce que c'est vrai, c'est un peu... Je me suis posé la question si c'était ce roman n'était pas aussi le roman de votre vie. Parce que un roman, est-ce que c'est pas une pierre d'achoppement de tous vos écrits, Toby Nathan ?
Alors, c'est à la fois un livre qui me tient beaucoup à cœur. Je l'ai longtemps mûri. Ça fait très longtemps que je me dis que j'ai envie de parler de cette époque. Et puis à un moment, c'est sorti, quoi. Et après, ça s'est écrit comme ça. Mais c'est un livre important pour moi, c'est vrai.
On le sent à la lecture, on sent... Je dirais presque c'est comme un élixir de jouvence. On sent que... Mais c'est vrai, il y a une sorte d'ébullition, vous revivez votre jeunesse.
C'est ça. C'est-à-dire que ça raconte mai 68, ça commence là, quoi. Et si c'était une nuit, c'est cette nuit, c'était la nuit du 10 au 11 mai 1968, cette nuit, la première nuit des barricades. Et bien sûr, je raconte cette nuit que j'ai vécue. Hein, et en même temps, c'est une sorte de course. Quelqu'un qui a, comme s'il avait la mort aux trousses, quoi, et qui court, jusqu'à ce qu'il rencontre son destin, quoi.
Exactement. Est-ce qu'on pourrait en faire un film ? Il y a une sorte, bah, oui.
Faites un appel aux cinéastes.
Non, mais c'est vrai.
Je serais ravi.
Parce que lors de cette nuit, il y a des tonnes de personnages, la Sorbonne, enfin, il y a des lieux, c'est absolument. On sent que le romanesque aussi, par mai 68, vient à vous.
Alors, c'est vrai que j'avais dans l'idée, mais bon, je suis un peu. J'ai parfois des sentiments grandioses comme ça. J'avais dans l'idée Fabrice Del Dongo à Waterloo, vous voyez, des personnages comme ça. C'est-à-dire quelqu'un qui, à la fois, est là parce qu'il doit être là, et en même temps, qui se demande qu'est-ce qu'il fout là, quoi, quand même. Hein. Et donc. C'est-à-dire, j'étais engagé complètement en mai 68, mais en même temps, j'étais étrange, je me sentais étrange, je me sentais pas vraiment à ma place. C'est un peu ce que je raconte pendant le début, au début en tout cas.
Oui, on peut dire que c'est un roman d'apprentissage, ou ça vous dit 19e
siècle.
Ah
oui, complètement, complètement. C'est un roman d'initiation, on va dire. Et c'est, bon, j'ai mis ça dans une nuit, mais en fait, ça a duré quelques temps quand même, quelques mois, on va dire. Au moins quelques mois, cette initiation.
Oui, ça a duré, et c'est vrai que votre personnage, qui est vous-même, hein, enfin bon, voilà, mais il est jamais à sa place. C'est pour ça que je vous parlais de l'exil, hein, parce que là, il y a une sorte... je dirais que c'est un roman aussi où ça pourrait être un... Il y a cette notion de voyage sans billet de retour. C'est pour ça que vous parlez du temps, du top chrono. Enfin, il n'y a pas de billet de retour pour vous. Alors, et on le sent, c'est très fort, hein, quand même. Même malgré l'ébullition de mai 68, on sent que vous êtes donc un jeune billet, tout ça. Enfin, votre seconde vie. Mais on sent que vous transformez encore en quelqu'un d'autre. Il y a l'exil et il n'y a pas de retour. C'est plus possible.
Alors, moi je suis arrivé en France, j'avais 9 ans. Et donc, quand on a 9 ans. Eh ben, on s'habitue, on a des copains, on joue, on fait les 400 coups, d'autant que c'était une cité à Gennevilliers, vous voyez.
Ouais.
Donc on était dans la rue, quoi. On a grandi dans la rue, quoi. Et J'étais content avec mes copains. Je pensais pas à ce qui s'était passé. Et puis là, en mai 68, on se retrouve sur les barricades. Notre vie est en danger aussi, hein. Et à ce moment-là, le passé revient, quoi. Le passé revient, et c'est ce que je raconte. C'est à la fois mai 68, ce qui est en train de se passer, et puis le surgissement de scènes du passé, et en particulier le départ d'Égypte, où on a été expulsé d'Égypte, hein. C'était en 56, vous voyez, c'est vieux. On a été expulsé d'Égypte, et sur le passeport, ils ont mis un visa, c'était écrit « Sortie sans retour ».
Et voilà, ouais.
« Sortie sans retour ». Donc, quand vous repensez à ça, quand vous revoyez ce passeport avec cette inscription, vous dites « Ah bah oui, il n'y a pas de retour possible ». Donc, tu n'as qu'une chose à faire, c'est « Vas-y, quoi ».
Ouais, aller de l'avant en sachant qu'on ne peut plus revenir en
on
arrière.
On ne peut plus revenir en arrière.
Ça rappelle Orphée, ça rappelle...
C'est ça, exactement.
Il y a des choses comme ça qui reviennent. Et c'est vrai que... Avoir 20 ans en mai 68, qu'est-ce que ça signifiait pour vous, pour, on sent que ça a une signification quand même très précise.
Là, précise, je ne sais pas, mais en tout cas, ça a une signification, c'est
voilà,
certain.
Voilà.
C'est certain. C'est-à-dire que 20 ans en 68, je ne sais pas, il y en a sûrement qui, à Paris surtout, hein, il y en a sûrement qui ont vécu les choses autrement, mais... La plupart des gamins de 20 ans, ils étaient sur les barricades, quoi. Donc, on y est forcément. Mais on se retrouve tous là avec une idée de... On va changer le monde, quoi, hein. Avec cette idée-là, un peu vague, hein, quand même. Hein. C'était pas très précis. C'était pas très précis. Le monde qu'on voulait reconstruire après, c'était pas très précis. Mais avec cette idée qu'on va changer le monde, on est tous là pour ça. Mais en même temps, est-ce que... On a vraiment une conception précise de ce qu'on va faire. Je suis pas certain de ça, je veux dire. En tout cas, moi, je ne l'avais pas.
Non, et c'est ce qu'on sent à vous lire, Toby Nathan. C'est-à-dire que on évolue avec votre personnage qui se cherche. C'est pour ça que je parlais de roman d'apprentissage. J'ai l'impression qu'il est dans un labyrinthe ou dans, comme dans la boule de Flipper. Vous voyez, tac, tac, tac.
Oui, c'est ça, c'est vrai, c'est vrai.
Il se cogne aux événements, il se cogne à la ville, il se cherche, y compris d'ailleurs à cette notion d'engagement, parce que vous dites, par exemple, je vous cite, hein, parce que Sauvageot, le bien nommé, le chef de l'UNEF, le syndicat étudiant, c'était les chefs. Moi, j'étais un militant, pas un chef. Ce mot militant dérive du latin miles militis, signifiant simple soldat. Soldat sans cheval. Voilà, en mai 68, j'étais un soldat sans cheval.
Mais oui, c'est exactement ça. C'est exactement. C'est-à-dire, je voyais, hein, des gens qui étaient de ma promotion, en fait, hein. Danny Cohn-Bendit, par exemple, on était en sociaux ensemble,
ouais.
En deuxième année de sociaux, et lui, c'était un chef, hein. Et puis il avait déjà son bagou qu'il a aujourd'hui encore, hein. Et Alain Gesmard, bon, il était un peu plus âgé que nous, mais pas beaucoup, en fait. C'est notre génération. Eux, c'était des chefs. Moi, j'étais pas un chef du tout, quoi. Mais j'étais là. J'étais là, et ça n'empêche pas de penser d'être un petit soldat.
Non, bien
voilà,
au contraire.
Voilà.
Bien
et donc,
contraire.
J'étais un petit soldat, mais j'en avais plein la tête, voilà.
Alors, la violence, par exemple. Vous dites, la violence des flics ne me scandalisait pas. Je ne comprenais pas, en revanche, celle des étudiants. Ils font ses têtes baissées comme des taureaux. Il est vrai que l'on aurait agité des drapeaux rouges sous le nez. Parce qu'il y a beaucoup d'humour aussi. Hein. Il y a oui. L'humour, comme vous avez, bon. Toby Nathan. Non, je n'en demande pas de mon idée. La violence ne devait pas se brader. La violence, c'était sacré. Il y a aussi cette notion-là. Il ne fallait l'exercer que pour faire exploser les évidences, pour casser les têtes, ouvrir les esprits. Donc cette explosion de mai 68, c'est une prise de conscience collective et individuelle, où chacun finalement, vous en tous les cas, vous faites le trajet de votre histoire. Vous...
Absolument. L'histoire de la violence, moi je suis absolument non-violent. Hein.
Oui,
donc,
oui ça, voilà.
Voilà. Se retrouver en mai 68 dans les manifs où tout le monde balançait des pavés, etc., en étant non-violent, ça fait bizarre, quoi. Et à un moment donné, j'ai voulu faire comme les autres, j'ai pris un pavé, ouais. et j'ai pas pu l'envoyer, quoi. C'est-à-dire qu'il y avait quelque chose qui... Il y avait la violence, elle était obligée, quoi. Mais je me disais, on n'utilise pas la violence comme ça, c'est pas possible. Elle peut pas être juste de la violence pour de la violence. Il faut que ça soit pour un but fort, puissant. On peut pas faire ça, quoi. Et j'avais une sorte... C'est aujourd'hui que je réfléchis à ça. Mais à l'époque, tout ce que j'ai su, c'est que j'ai pas pu lancer le pavé. Et d'ailleurs, j'ai reçu une grenade juste,
oula,
juste au-dessus de la tête. Et j'ai bien failli perdre le visage, quoi.
Ouais, en effet.
Et donc après, je suis parti.
Il y a la notion d'idéal. Comment voyez-vous l'époque actuelle ? C'est vrai que, voilà, il y a beaucoup de violence, hein, beaucoup, beaucoup.
Beaucoup.
Et cette notion d'idéal, j'ai l'impression qu'elle disparaît aussi un peu.
C'est-à-dire que l'idéal... À l'époque, c'était un idéal philosophique. C'était un idéal de liberté, liberté et d'égalité. Et aujourd'hui, quand il y a des idéaux, c'est des idéaux religieux. Et on était très très loin de ça. Hein. Donc la différence, elle est là. Là, on voit des gens qui ont des idéaux aujourd'hui, mais c'est des religieux, quoi. Les autres n'ont pas d'idéal.
Ouais.
Et je pense que c'est notre grande difficulté aujourd'hui. On n'arrive pas à opposer aux idéaux religieux des idéaux d'une autre nature, ce qu'on avait justement en 68.
Là, c'est des dogmes, d'ailleurs. Ce qu'on a, c'est même pas l'idéal. L'idéal laisse une ouverture.
Non, mais les gens sont passionnés, quoi.
Ouais.
Et ils sont pris. Mais quand ils sont pris, c'est par des histoires religieuses, quoi.
Ouais, ils sont fanatiques, il faut dire aussi.
Pardon ?
Le fanatisme.
Oui, oui. Nous étions peut-être aussi des fanatiques, hein, à l'époque. Enfin, moi, pas. J'ai jamais réussi.
Dans votre livre, on sent que ça explose de partout, que chacun... Bon, il y a des fanatismes. Oui, mais c'est une sorte d'ébullition, de vitalité, de sursaut de vitalité, je dirais.
Alors, moi, pendant longtemps... Parce que, vous savez... Dans ma jeunesse, en 65, 66, on faisait des monômes. On appelait ça des monômes.
Oui.
Le jour du bachot, on sortait dans la rue et on faisait des farces dans la rue. C'est-à-dire, on badigeonnait les passants au dentifrice, vous voyez. Des farces un peu innocentes, mais on se marrait bien, quoi. C'était les gamins qui sortaient et puis qui faisaient des trucs inattendus, quoi. Et le début de mai 68, moi, j'ai pris ça pour un monôme. Hein. Et quand j'ai vu que les flics cognaient vraiment et que nous, on leur balançait vraiment des pavés, je me suis dit, ah non, c'est pas tout à fait un monôme. C'est peut-être un peu plus important qu'un monôme, quoi.
C'est marrant, ce mot de monôme, ça me rappelle Boris Vian. Je crois qu'il en parlait avec son frère, Alain Vian.
Absolument. Mais c'était une tradition, quoi. Et moi, comme j'ai été, avant d'être maoïste, j'ai été ce qu'on appelait situationniste. Alors, c'était la philosophie, c'était il fallait créer des événements dans la rue qui surprennent les gens et qui les font réfléchir, quoi. Alors, parfois, on se mettait tout nu, place Saint-Michel, vous voyez, des choses comme ça. Évidemment, les gens étaient très étonnés. On se faisait embarquer par les flics, hein. Enfin, moi, je me suis jamais fait embarquer.
Ah non, non, ça, vous vous débrouillez bien.
Je cours vite.
Vous courez vite.
Non, je courais vite, hein. Je ne sais pas si je courrais aujourd'hui aussi vite.
En tous les cas, votre personnage, qui est un peu vous-même, forcément, il court vite, il passe entre les mailles du filet. Mais il y a aussi cette notion, il y a une autre forme de violence. Pour vous, c'est l'indifférence. Vous écrivez, ils n'étaient pas méchants, ils étaient indifférents. L'indifférence est peut-être la pire des violences qu'on peut exercer sur un enfant, une violence invisible, sournoise, à l'effet destructeur durable. Et c'est vrai que voilà, vous sortiez aussi, il y a cette notion d'indifférence, et mai 68 met fin à l'enfance.
Oui.
Et là,
c'est
paf.
Certain. C'est certain. C'est-à-dire que j'ai appris à apprendre en classe de philosophie, quoi. Et tout d'un coup, on m'a dit ta révolte, là, elle n'a pas de but. Et donc, apprends à réfléchir pour que ta révolte ait un but. J'ai eu une super prof de philo qui m'a mis le pied à l'étrier, en quelque sorte. Et donc, c'est vrai que à ce moment-là, il y a quelque chose qui a basculé. Et après ça... on rentrait dans l'existence, c'est-à-dire que les événements, ils étaient pas seulement pour moi, ils étaient collectifs. on vivait les choses ensemble, quoi.
Ensemble, c'est ensemble. Là la prise conscience du collectif.
C'est ça.
Jusqu'à mes 19 ans, dites-vous, nous vivions dans le même appartement, pas dans le même univers. Difficile à expliquer, j'aimais parler à ma mère d'égal à égal. Donc c'est vrai que vous sortez un peu de ce cocon familial complètement, d'ailleurs on le voit, vous sortez du nid familial, et puis vous faites vos premiers pas dans cette ville de Paris que vous découvrez, parce que Paris sous les barricades aussi... Tommy Nathan, c'est parti.
Alors, il y a deux choses dans ce que vous dites. Hein. La première, c'est-à-dire, des enfants de migrants, on croit que c'est les enfants de leurs parents, mais c'est pas vrai. C'est-à-dire que le fait qu'il y ait eu la migration, les enfants apprennent tout de suite la langue. Hein. Ils apprennent tout de suite l'endroit où ils sont. En 3 mois, j'étais devenu un petit français, hein. 3 mois, 6 mois, peut-être, même pas, quoi. À l'école, j'avais des copains, tout ça, c'était terminé. Moi, j'étais un petit français. Eux, ils n'étaient pas devenus des parents français, hein. Ils étaient restés ce qu'ils étaient. Et donc, moi, j'étais, en quelque sorte, plus leur enfant, quoi. Je les aimais bien, hein. J'ai toujours aimé mes parents. J'ai pas eu de révolte adolescente ou des choses comme ça. J'ai toujours eu des relations apaisées avec mes parents, mais ils étaient comme étrangers à moi, quoi. C'est ça que je dis quand je dis on vivait dans le même appartement, mais pas dans le même univers.
Ça, c'est très important.
Et je pense que je le dis aussi parce que je pense à tous les gamins dont je m'occupe aujourd'hui, qui sont très souvent des enfants de migrants et qui sont dans le même état et qui se sentent extrêmement angoissés d'être dans cet état, c'est-à-dire d'être tout près de leurs parents et si différents d'eux quand même. Et donc ça, cette chose-là, certainement a contribué à me mettre sur les barricades, hein, je veux dire.
Ouais.
C'est ça que je voulais dire et que je voulais approfondir. Et puis, le livrer aussi à la jeunesse d'aujourd'hui, hein, celle qui fait des émeutes aussi, comme nous avons fait des émeutes, et de leur dire peut-être que la solution, elle est peut-être pas dehors, elle est aussi à l'intérieur, de se demander d'où on vient, qui on est, quoi.
Vivre entre deux étrangetés, enfin, c'est ce que
c'est ça,
dites.
Exactement.
Deux étrangetés, vivre étranger, en pays étrange, étranger à soi-même, dites-vous. En arabe, on dit « garib », étrange, étranger, lointain, c'était moi.
Oui, c'est ça. Alors, « garib » en arabe, garib. C'est un mot super intéressant, vous savez, ça veut dire « l'ouest », en fait. Être à l'ouest, comme on dit.
Ah bah oui, on dit aujourd'hui.
On dit ça aujourd'hui.
Ah oui, sans arrêt.
Être à l'ouest, et ça veut dire être étrange, en fait, hein. Il est complètement à l'ouest. En fait, en arabe, on dit gharib. C'est le même mot qu'il y a dans Maghreb, vous voyez. Maghreb, ça veut dire l'Occident, hein, ça veut dire le pays le plus à l'ouest de l'Afrique, en fait, hein. L'Occident, quoi. Là où le soleil se couche. Et c'est ça que ça veut dire. Mais en même temps, celui qui est là-bas, eh ben, il est bizarre, il n'est pas comme les autres, quoi.
Il n'est pas comme les autres.
Ouais.
On va faire une petite pause musicale, puisqu'on me dit souvent je ne fais pas assez de pause musicale, et nous allons reprendre notre conversation, Tommy Nathan.
D'accord.
Alors, une chanson que je vous repasse et que vous avez beaucoup aimée, Tommy Nathan, c'est le duo en hébreu et en arabe entre Yasmine Lévy, Mano Suave et Natacha Atlas, d'origine égyptienne. Tocar el alma a nadie se atrevía. Ay, madre, a tocar el alma a nadie se atrevía. Corazón.
Vous êtes bien sur Radio Libertaire 89.4. Vous écoutez l'émission Bibliomanie aujourd'hui en présence de Toby Nathan qui vous dira tout bientôt et qui vous dit déjà tout sur Et si c'était une nuit, un très beau roman qui vient de paraître aux éditions Stock. Puis on parlera en fin d'émission d'un autre livre que j'ai bien aimé aussi, Ethno-mythologique, Petits objets du quotidien, aussi aux éditions Stock. Alors Toby Nathan, votre émotion là présente en écoutant cette parenthèse qui n'en est pas une, mais une résonance, voilà, bon, une résonance qui...
Moi j'adore cette musique, évidemment, parce que c'est la musique de mon enfance,
bien sûr.
Fait, hein. Et donc, je vibre à chaque fois que je l'entends. C'est pas en arabe et en hébreu, hein, c'est en arabe et en ladino, en fait. Hein. C'est du ladino qu'on entend. Et donc, ce qu'elle dit, elle dit... chaque nuit, chaque jour, j'ai aimé ton cœur complètement. C'est beau, quoi. C'est une histoire d'amour, quoi. C'est une chanson d'amour, quoi. C'est tellement belle. J'adore cette chanson.
C'est important, la voix, pour vous, la musique. Est-ce que vous écrivez en musique? Ça vous arrive ou pas?
Oui, bien sûr. Et si vous avez noté, j'imagine que chaque titre de chapitre est un titre d'une chanson de l'époque.
Voilà.
En fait, en vérité, mon intention, c'était de mettre le premier paragraphe de la chanson. Mais les droits étaient exorbitants. Alors j'ai juste mis le titre, quoi.
On pourrait parler d'une partition sentimentale.
C'est un peu ça. C'est vrai que c'était les musiques de l'époque. Et d'ailleurs, Et si c'était une nuit, c'était la musique de Reggiani. Et si c'était une nuit, comme on n'en connut pas depuis, les loups sont entrés dans Paris.
Hein, oui, bien sûr.
Bah oui, c'était, voilà. C'est ça aussi, hein, même le titre.
Même le titre. Alors tout à l'heure, vous parliez, on parlait des mots. J'ai l'impression qu'aussi, est-ce que pour vous, le travail d'écriture, c'est pas de revisiter les mots, d'explorer les mots, de passer dans l'envers du décor, si j'ose dire. C'est-à-dire de... on parlait tout à l'heure justement de cette notion d'étranger, d'être étranger à soi-même. Et à chaque fois, vous aimez bien jouer à pile ou face avec les mots, vous aimez bien les retourner, y compris d'ailleurs dans votre roman, où à chaque fois, même les personnages, vous retournez la facette des personnages. Enfin, il y a des personnages étonnants dont nous allons parler, Tommy Nathan, d'être un peu un visiteur, un explorateur.
Alors, bon, les mots sont... c'est-à-dire, je reviens sur cette... comment ce destin de migration dans l'enfance, on a plusieurs langues à l'intérieur, quoi. Et donc, quand on a plusieurs langues à l'intérieur, depuis le début, hein, et je crois que le premier mot que j'ai dit, c'était en arabe, hein. Donc, c'est-à-dire, il y a plusieurs langues dedans.
Ouais.
Et donc, les mots, ils sont pas tout à fait... ils sont pas collés à la chose qui désigne. Ils sont un peu flottants, quoi. Et donc, parce qu'il y a un autre mot dans une autre langue qui le désigne aussi. Et donc, le mot, il est pas... on le sent arbitraire, quoi. On sent qu'on peut le changer, qu'on peut le bousculer. Et ça, j'aime beaucoup ça, quoi. Quand on le fait volontairement, on maîtrise un peu. Parce que quand ça nous arrive tout d'un coup, c'est une très grande inquiétude, hein. Quand il vous vient un mot et vous vous dites « Attends, c'est dans quelle langue ce mot ?» Alors, c'est une très grande inquiétude parce que vous avez peur de dire une connerie, quoi.
D'avoir plusieurs langues en soi, ça explique aussi votre vocation pour l'écriture ?
Je ne sais pas.
Quand est-ce que vous avez eu le déclic d'écrire ?
Alors, écoutez, à 14 ans, on va dire ça comme ça. Non, à 14 ans, j'avais un petit calepin, comme ça, où je notais des trucs. Et sur... sur la tranche du calepin, j'avais écrit « Tobie Nathan, écrivain ». J'avais 14 ans. J'étais pas du tout un écrivain, mais c'était ça, quoi. Dans ma tête, c'était ça. Après, j'ai réalisé ça 30 ans plus tard, quoi. Mais il y avait ça déjà tout petit, quoi.
Il y a des gestes annonciateurs ?
Peut-être. Peut-être. Il y a des choses comme ça, qui sont comme la marque du destin et auxquelles... on ne prête pas attention au moment où ça se produit, mais après, quand ça arrive, on dit « Ah ben, c'était déjà là, quoi. »
Être le lecteur de sa propre vie, c'est important pour vous. Enfin, évidemment, puisque vous êtes psychanalyste, etc., vous êtes dedans, dans la lecture de la vie.
Ouais, enfin, moi, je perçois pas la psychanalyse ou la psychothérapie, parce que je pratique plus la psychanalyse. J'ai grandi là-dedans, hein. C'est comme ça que j'ai été initié. Mais je pratique plutôt la psychothérapie, enfin la thérapie, quoi. Toutes sortes de thérapies, en fait. Chaque fois, j'essaye de chercher ce qui convient le mieux à la personne. Et en tout cas, moi, je perçois la psy comme une action, et non pas comme une lecture, quoi. Est-ce que tu peux faire quelque chose pour moi ? Me dit le patient, et il n'a pas du tout envie que je lui raconte sa vie. Il veut que je dénoue quelque chose, que j'agisse sur lui. C'est plutôt comme ça que je vois mon métier.
Très bien. Et donc, c'est vrai qu'il y a dans ce roman d'apprentissage, Tommy Nathan, il y a des personnages initiatiques, si on peut dire.
Oui.
Le premier d'entre eux, votre père, il était tout d'une pièce, c'était son secret, inentamé par les événements qui auraient accablé n'importe qui, imperméable aux critiques, qui glissait sur ses ailes d'ange. Il souriait aux événements du monde. Mon père était un mystère. Le mystère de votre père, qui rejoint le mystère de vos origines aussi, de nos origines, parce qu'on se retrouve aussi dans votre roman d'apprentissage. Et ce père est une sorte de silence.
C'est-à-dire, mon père, il était pas, je dirais, si je lui posais une question, il répondait.
Oui,
hein.
Oui.
Mais enfin, il planait, quoi.
Voilà.
Il planait, il était dans un autre monde. Et, Et comme il était beau, et d'ailleurs, j'étais pas le seul à dire, tout le monde disait, oh, il est beau, quoi. Et c'est un homme qui était beau. D'ailleurs, il y avait beaucoup de succès avec les femmes, hein. Et donc, il était beau, il se présentait comme ça, et puis, c'était sa présence, quoi.
Une sorte de légèreté d'être.
Mais oui, mais quand même, c'est quelqu'un qui a été viré de son pays à 45 ans. Il se retrouve dans un pays étranger, sans boulot, sans un sou, et avec une famille, deux enfants, une femme, deux enfants, qu'il faut faire vivre. C'est grave, quoi. Et lui, il planait toujours, quoi.
Apparemment.
On a survécu.
Ouais.
Il s'est démerdé.
Ouais.
Bon, il a beaucoup souffert, sûrement. Mais ça se voyait pas, quoi. C'était un prince, quoi.
Une forme d'élégance aussi.
Prince d'élégance, oui.
Et avec votre mère, par contre, vous parlez, il y a du dialogue.
Ma mère, c'est une intello, alors. Enfin, c'était une intello, elle est partie, bien sûr. Mais c'était une intello qui adorait les bouquins, avec qui je discutais de choses compliquées, de philosophie, de psychanalyse. C'était mon premier interlocuteur pour la psychanalyse. Elle contestait Freud. Au fond, elle avait raison, hein, mais moi, j'étais complètement enflammé pour Freud à cette époque. Et donc, je discutais avec elle. C'était des vraies discussions. C'était une intello, mais elle s'animait à ce moment-là. Le reste du temps, elle était complètement cassée, elle, par la migration. Alors, évidemment, quand je discutais avec elle, elle se réveillait, elle était présente, elle était vivante, quoi. Mais sitôt que elle avait pu cette chose qui la tenait éveillée, quoi. Elle s'effondrait à nouveau dans cette dépression qui s'est saisie d'elle, au fond, le premier jour qu'elle est sortie d'Égypte, et jusqu'à sa mort, en fait.
Le vivant de la parole.
Ah ouais, ça l'a réveillée complètement. C'était une femme de parole. Ouais. Ouais.
Et d'ailleurs, ce vivant de la parole, on le retrouve tout au long de votre roman, Toby Nathan. Alors, vous écrivez aussi, dans la famille, on me considérait comme un prodige, et puis nous avons été chassés d'Égypte. Il y a eu un avant, il y aurait un après. Je ne peux pas dire que c'était moins bien, mais je n'étais plus le même enfant. L'avant, l'après, c'est ce dont on a parlé tout à l'heure.
Oui, absolument, absolument. Quand j'étais petit, pareil, j'étais génial. Bon, mais c'est ce qu'on racontait, je ne m'en souviens plus. Après, c'était beaucoup plus compliqué.
Après, plus compliqué. Alors, autre personnage, quand je disais probablement dans l'initiation d'apprentissage, avec des personnages qui vous révèlent à vous-même. Alors, comme je sais que vous aimez les djinns, que vous aimez ce côté, l'autre côté des apparences, c'est Zohar, qui est un personnage quand même, c'est votre une sorte de, je sais pas, d'interlocuteur de l'invisible, du visible, invisible. Enfin, il y a quelque chose. Zohar, repris l'inconnu. Zohar de mon prénom, Zohar de mon nom. Enfin, c'est un personnage qui vous interpelle régulièrement, qui interpelle votre personnage.
Absolument.
Dans votre roman. Est-ce que vous pourriez nous présenter ce personnage de Zohar?
Alors, Zohar est un personnage qui était présent dans les romans précédents.
Voilà.
Et donc, c'était une sorte de clin d'œil aussi aux romans précédents.
Exactement.
En fait. C'est un homme qui est de la génération juste avant moi, c'est-à-dire lui est né en 1925, moi je suis né en 48, c'est la génération juste avant.
Ouais.
Il est plus jeune que mon père, mais il est plus vieux que moi, quoi. Il est la génération intermédiaire. Et cet homme qui est une sorte de conglomérat de gens que j'ai connus, hein.
Oui.
C'est pas quelqu'un en particulier. Et cet homme représente celui qui peut transmettre les choses cachées du monde que je n'ai pas connu, c'est-à-dire de la tradition des Juifs d'Égypte dont je proviens. Mais moi, on m'a pas transmis parce que je suis parti trop petit. Il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui me transmette ça. Et c'est Zohar. Et il vient et il me dit, mais qu'est-ce que t'as? Tu te comportes comme un orphelin. T'as des origines. T'as un univers de référence. Pourquoi tu te comportes comme un orphelin? Pourquoi tu fais n'importe quoi? Comment ça se fait? T'es pas tombé d'un arbre. Tu viens de quelque part. Prends conscience de l'endroit d'où tu viens. C'est ça qu'il vient me dire.
Oui, c'est un personnage qui vous reconnecte avec vous-même.
C'est ça, exactement. Et reconnecte avec mon noyau, quoi. Pas, parce que je ne suis pas comme mon noyau, hein. Je suis aussi toute la chair qui est autour. Quoi. Mais...
Et plus étymologiquement parlant, le mot juif veut dire celui qui part d'Égypte, hein. C'est la fuite
alors,
de l'Égypte.
Alors, ce qui définit un juif,
ouais.
C'est le fait qu'on a été sorti d'Égypte, et c'est ce qui est raconté dans le texte, hein, dans la Bible. Quoi. En fait... Dieu est venu, il a sorti les Juifs d'Égypte et du coup ils sont devenus des Juifs quoi. Oh. Et ils sont devenus le peuple choisi par Dieu. C'est le mythe, hein, de la création des Juifs. Donc normalement, vous savez que même Maïmonide, qui a refait au XIIe siècle les lois en fait, hein, pour le judaïsme, a dit tu peux vivre n'importe où sur la terre, sauf en Égypte.
Voilà, donc
Et où est-ce qu'il s'est installé? Au Caire. Et donc, nous, on était installés au Caire. Donc, vous voyez, c'était quand même assez...
assez bizarre.
C'était bizarre, quoi.
Quand même,
c'était bizarre parce que, durant la fête de Pâques, les Juifs fêtent la sortie d'Égypte. Et donc, nous, on fêtait ça au Caire. Et donc, moi, j'étais un gamin sous la table. Et je les entendais dire « Ah, Dieu, merci de nous avoir sortis d'Égypte. » Et on était en Égypte.
Vous étiez hors d'Égypte. Alors, Zohar, toujours, vous écrivez « Zohar, mon aîné, mon grand frère, lui qui m'a précédé dans les rencontres de la pleine lune. Et cela, au moins, il était mon aîné. Et puis, nous étions pays, comme on disait jadis en France, originaire du même Caire. » Donc, il y a cette... Mais il surgit à des moments, justement, où vous vous cherchez, parce qu'il y a beaucoup d'apparitions dans votre livre.
Oui, il y a des apparitions, exactement. C'est exactement ça, c'est des apparitions. Il y a des apparitions de personnages réels. Zohar est un personnage réel, quoi. C'est pas un fantôme.
Hein. Non. Moi, j'ai failli le croire, vous voyez, que c'était un fantôme, tellement qu'il surgit comme ça.
Il surgit, et ce que je laisse sous-entendre, sans jamais le dire dans le texte, c'est qu'il aurait été envoyé par mon père... qui fait semblant de ne pas s'occuper de moi,
ouais.
Mais qui m'envoie quelqu'un pour me surveiller, quoi, parce que je commence à faire n'importe quoi. Mais je laisse sous-entendre ça, je ne le dis pas.
Ouais. Alors, il y a aussi la tante Henriette, alors l'autre femme initiatrice, hein, alors là,
ah, oui.
À la tante Henriette, on l'appelait Om El Gayeb, la mère de l'absent.
Om El Gayeb.
Ah voilà, c'est mieux que vous voulez. La mère de l'absent. Pour elle, il n'était pas possible d'être mère de personne. Donc cette mère de personne va être mère de pas mal de vie, finalement. Elle a cette faculté d'initiation amoureuse, on peut dire, avec votre narrateur. Mais c'est un personnage, elle aussi, enfin, cette tante Henriette, faut vous
dire. C'est un personnage formidable, qui, elle aussi, est un condensé de plusieurs personnes que j'ai connues. Et vous savez, quand on est arrivé... dans la cité de Gennevilliers, ça devait être 1958, hein, et parce qu'on a erré un certain temps avant d'arriver dans un appartement, quoi. Et c'était une cité HLM, quoi,
oui.
À Gennevilliers. Et donc quand on est arrivé là, c'était la première, le premier arrivage un peu important de migrants après guerre. On était les premiers. Après, il y en a eu beaucoup, après l'Algérie, etc. Mais nous, on était les premiers. Donc, on ne savait pas où nous mettre, quoi. Et on nous a tous mis dans la même cité. Donc, en fait, on a reconstitué un peu un petit Caire, là, dans cette cité, parce qu'on était tous de la même origine, quoi. On ne se connaissait pas en Égypte, hein, mais tout d'un coup, on s'est fréquentés tous, là. Et il y avait des personnages hauts en couleur, comme cette tante Henriette, qui, à la fois... ne voulait pas travailler, passait son temps, toutes ses nuits au casino d'Anguin à jouer aux cartes, et puis qui aimait la vie, quoi. Qui aimait la vie, l'alcool, la musique, le sexe. Et nous, pour les gamins, ben, on a découvert la vie avec elle.
Voilà, c'est un personnage. Mmh. Et on sent vraiment tout un... D'ailleurs, je vous ai entendu dire quelque part que les migrants d'hier ne sont pas ceux d'aujourd'hui, c'est-à-dire que la migration n'est pas tout à fait la même, puisque vous vous êtes il y a la notion de métamorphose très forte.
Bah, c'est obligatoire. C'est-à-dire, quand vous partez et que vous n'avez pas de possibilité de retour, vous êtes obligé de changer, quoi. Soit tu changes, soit tu meurs.
Voilà,
quoi.
Ouais.
Soit tu dépéris, tu deviens rien, quoi. Et donc, on est sommé de se métamorphoser. Et on le fait, surtout les enfants. Hein. Et donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, les migrants qui arrivent aujourd'hui, dont je m'occupe, hein, je m'occupe essentiellement des migrants, c'est des gens qui sont en contact avec leur monde, qui continuent à téléphoner, parce que le téléphone est gratuit, hein, par Internet. Hein. Ils téléphonent tous les jours, ils parlent toujours la langue. Il y en a qui, au bout de 20 ans, ne parlent toujours pas un mot de français. Hein, parce qu'ils restent connectés constamment avec le monde d'avant et ils ne comptent pas rester éternellement. Hein. Ils sont de passage, en fait. Ce sont plus des diasporas. Alors que avant c'était des migrations qui étaient... on migrait, mais pour changer l'être de la personne.
Et quoi. Vous changez de vie, vous avez eu deux vies, enfin trois vies.
On changeait d'être.
D'être.
Oui, moi j'ai eu trois vies. C'est-à-dire, je suis né un petit garçon égyptien, puis après je suis devenu un petit garçon italien. J'étais très content d'être un petit garçon italien, mais ça n'a pas duré longtemps.
Ah, ça n'a pas duré longtemps.
Ça n'a pas duré longtemps, j'étais à Rome, c'était merveilleux. D'autant que, vous savez, en Italie, les enfants, c'est les rois. Hein.
Ouais.
Et donc, on peut faire tout ce qu'on veut en Italie. Après, quand vous débarquez dans une école française, tout change. Hein. Ouais. Là, c'était, en plus, à l'époque, c'est « je veux voir qu'une tête hein. ». Et donc là, bon, ça m'a fait la douche froide, quoi.
Donc, vous étiez à votre troisième vie. Donc,
c'était ma troisième vie, oui.
On peut dire ça comme ça.
Ouais.
Ben, on va faire une pause musicale, Toby Nathan, pour savoir si nous avons plusieurs vies encore qui nous attendent.
Alors, la vie qui vous attend, là, on revient en Égypte avec le trio Abosekris et qui parle de My Care. Alors, bon, c'est de l'anglais, My Care. C'est enregistré en 2018.
Thank you.
Et voilà, vous êtes sur Radio Libertaire 89.4. Vous écoutez toujours, je l'espère, l'émission Bibliomanie, aujourd'hui en présence de Toby Nathan. Et nous discutons, nous parlons, nous voyageons, nous refaisons le monde forcément avec « Et si c'était une nuit ?» Ça va paraître aux éditions Stock, c'est un roman. Toby Nathan, il y a, je vous parle des personnages, et c'est ça un vrai romancier, ce foisonnement de vie et de personnages, de personnalités. Ah, il y a un autre personnage de fiction dont vous parlez, c'est Arsène Lupin. Toby Nathan. J'avais 11 ans, mon modèle était Arsène Lupin, qui passait en feuilleton à la radio tous les dimanches soirs. J'avais réussi à dérober des millions à des hommes trop riches, aménager des caches dans les recoins des caves des immeubles de la cité de Gennevilliers. J'explorais inlassablement les mondes souterrains à la recherche d'espaces inaccessibles où planquer mon magot. Bref, votre imaginaire, c'est cet Arsène Lupin aussi, ce gentleman cambrioleur.
Oui, absolument. Absolument. Quand j'étais passionné par Arsène Lupin, que j'ai découvert à la radio, en fait, hein. Après, je l'ai lu. Hein.
Et ça passe bien à la radio.
Ah ouais, ça passait super bien.
Ça passe très bien.
Je sais pas, je ne l'ai jamais plus réécouté depuis, mais. Donc, c'est mes oreilles de l'époque, quoi.
Ouais, ouais.
Mais j'étais fasciné, quoi. Et je me souviens, j'avais un copain de classe, et on se racontait l'épisode, quoi, le lendemain. On était complètement fascinés par ce personnage. Et donc moi, je l'ai vécu un peu plus personnellement en me disant... Parce qu'il y avait des caves dans cette cité et les caves communiquaient d'un immeuble à l'autre. Et donc, alors vous avez des labyrinthes de caves, en fait. Et donc moi, je passais mon temps là en imaginant que peut-être un jour... Je pourrais planquer de l'or ou je ne sais quoi, ou des richesses dans ces caves. Et donc, je me baladais là-dedans, oui. Je passais, en fait, de la cave à la terrasse. Parce que les endroits qui n'étaient pas fréquentés par les humains ordinaires, on va dire.
On peut dire, Toby Nathan, que vous cultivez l'art de la fugue.
Oui, c'est vrai.
D'ailleurs, vous avez dit, c'était notre formule libertaire, je pars faire un tour, l'autre ne posait jamais de questions, le tout pouvait durer 10 minutes ou 3 jours. Donc cet art de la fugue, là...
Ça c'était les chéris de l'époque, quoi. C'est-à-dire, on se disait que, justement, on ferait tout notre possible de ne pas s'attacher, quoi. Donc on pouvait partir... Ou revenir, on revenait, hein. Mais c'était pas c'était pas un contrat, quoi. On n'était pas engagé à revenir. Donc on partait, peut-être qu'on partait pour toujours, peut-être qu'on reviendrait dans quelques jours, peut-être qu'on reviendrait tout de suite, on ne sait pas. Et c'était une sorte d'initiation à l'absence, quoi. Moi, je trouvais que c'était très beau, cette façon d'avoir une relation amoureuse. C'était des relations amoureuses.
C'est important d'avoir toujours une porte de sortie.
Bah, maintenant, je ne suis plus comme ça.
mais dans votre roman, c'est vrai qu'on a l'impression que votre personnage ouvre des portes. Il passe d'un univers à l'autre, il tombe sur des scènes.
C'est le moment des découvertes du monde, quoi. À ce moment-là... on se dit que si on s'enferme à un endroit, le reste du monde on aura perdu le reste du monde.
Bien sûr.
Donc on a envie que tout reste ouvert. Donc il faut pas être coincé à un endroit.
Ah
quoi.
Non, vaut mieux pas.
Ben, c'était ça l'idée. Et donc c'était un peu oui une idée libertaire. Oui, c'est vrai. Hein.
Alors justement, puisqu'on parle de libertaire, on voit aussi l'évolution de votre personnage et de vous-même d'ailleurs. Dans ses engagements, donc vous êtes maoïste, hein, là. Enfin, et alors vous fréquentez le milieu anarchiste, Toby Nathan. Je me suis souvenu que Bandido, c'était un littéraire qui avait beaucoup lu. On pouvait même dire un érudit. Depuis qu'il fréquentait les anars, il avait pris son militantisme au sérieux. Il s'était mis à éplucher la littérature anarchiste. Quand il en parlait, je n'exagère pas, c'était éblouissant. Donc il y a toute une culture que vous découvrez.
Oui, absolument. La culture anarchiste, voilà. Absolument. Je l'ai découverte à ce moment-là. Et grâce en effet à un camarade qui était un érudit, j'ai toujours eu une fascination pour les érudits, et qui connaissait tout. Quand il s'attachait à un sujet, il connaissait tout sur ce sujet. D'ailleurs, ce garçon, ensuite, il a fait des maths, hein, en fait. Hein. Et donc, il n'est pas du tout resté dans ses intérêts de l'époque. Mais ce type était tellement doué qu'il pouvait être érudit en tout. Et c'est vrai qu'il m'a appris à lire les auteurs anarchistes et j'ai beaucoup été pris par ça, oui.
Il était en quelque sorte un passeur.
C'était un passeur.
Alors, vous parlez aussi de Voltairide, de Claire, l'inventrice de l'action directe.
Ouais, ben parce oui, qu'il y a beau, voilà. Ben absolument, c'est elle qui a inventé le terme action directe. Hein. Action directe, c'est-à-dire faire des événements, parce que les anarchistes ont fait des événements bien avant nous, hein. Dans les années 1910, 1920, quoi. Et là, ils étaient très très présents, hein, comme pensée et comme action, quoi. Hein. Et bien avant. Alors, quand moi j'étais maoïste, c'est vrai, parce que je considérais que c'était la frange la plus
extrême.
La plus extrême.
C'est-à-dire extrême.
Gauche. Où est-ce que tu peux être gauche de la gauche, quoi? Et ben c'était ça, c'était maoïste. Et je me suis rendu compte à un moment donné que ils étaient extrêmement autoritaires, quoi. On n'avait pas le droit d'avoir de relations amoureuses. Et donc ça s'est très mal terminé avec mon groupe. Hein.
Alors vous dites, le bilan restait malgré tout positif, n'est-ce pas? Je les appelais les malgré tout. Quant à moi, je faisais partie des extrémistes, de ceux qui étaient prêts à brûler les idoles de Daguerre pour sauvegarder la pureté de la lutte.
Oui.
Et c'est l'action, en fait. Vous parliez d'action dans votre métier.
C'est ça, absolument.
Ce qui vous plaît, ce qui vous motive, enfin ce qui vous motive, c'est l'action. C'est d'agir.
À cette époque, j'avais l'illusion que je pouvais agir sur le monde. Après, je me suis rendu compte que si je pouvais agir sur une personne, c'était super bien, et c'est pour ça que je suis devenu psy, quoi. Et parfois, j'arrive à agir sur une personne, mais pas toujours.
Est-ce que le métier, enfin, est-ce que l'écriture, le fait d'être romancier, c'est aussi une action?
C'est certainement une action. Le problème, c'est qu'elle dépend des lecteurs, quand même. C'est-à-dire, vous agissez à condition qu'on vous lise. Et donc là, ça dépend plus de moi.
Ouais.
Je sais pas. C'est parfois la chance, parfois l'éditeur, parfois la radio.
Et la radio.
Et voilà.
Des discussions, la radio. Alors, vous parlez aussi de votre détestation de la foule. C'est un peu. Et en même temps, je vous ai entendu dire des fois que le collectif, pour vous, l'œuvre est collective. J'ai cru vous entendre dire ça. Mais vous soulignez aussi la foule. Une foule a toujours tort, dites-vous. Elle vous emporte, vous absorbe, vous dévore. Vous êtes dénoyauté, vidé de votre substance, privé de votre moi. La foule, c'est le cannabis de l'innocent.
Oui, c'est vrai. Mais ça, je vais vous dire je suis complètement persuadé intellectuellement que ce sont les collectifs qui créent les choses les plus importantes. Un exemple tout bête, hein, la langue, par exemple. Ouais. Qui est-ce qui crée la langue, qui est quand même la chose la plus merveilleuse qui existe, quoi. N'importe quelle langue, d'ailleurs. Hein. Mais la langue française, par exemple. Qui invente la langue française? Tous les locuteurs de français, quel qu'il soit. Tant qu'il y a des gens qui parlent français, la langue française est inventée. Donc c'est le groupe tout entier qui invente la langue. Donc je suis persuadé que les choses les plus importantes, les plus puissantes, sont produites par un collectif. Mais en même temps, une foule, c'est pas un collectif, c'est autre chose. Hein. Et les foules, je les ai vues, je les ai subies aussi, j'y ai participé aussi en mai 68. Et c'est d'ailleurs, c'est là où il y a eu une sorte de court-circuit, on va dire, hein. Parce que je me souviens, j'avais 4 ans, hein, mais il m'est resté des choses dans la tête et surtout dans le nez. C'était l'incendie du Caire. C'est la foule des islamistes qui déferlent sur le Caire et qui mettent le feu au Caire. Il y a eu un incendie généralisé dans le Caire. Moi, j'habitais le Caire, j'avais 4 ans, hein, et il m'est resté l'odeur dans le nez. Et quelquefois, je la sens encore, cette odeur. J'étais terrorisé, évidemment, parce que mes parents aussi étaient terrorisés. Et donc, c'était une terreur qui se transmettait. Et ça, on se disait, à ce moment-là, c'est comme un tsunami. Vous pouvez rien faire, quoi. Ouais. Contre une foule qui a décidé de déferler, vous pouvez rien faire. Donc, cette foule-là, je la redoute. Oui. Je ne l'aime pas, cette foule-là. En revanche, un collectif qui invente, qui crée, c'est autre chose. Voilà, donc je ne sens pas que c'est une contradiction, moi. Mais...
Enfin, l'air du temps, ça peut être... Ce qu'il y a dans l'air du temps, ça vous intéresse
Ah bah, beaucoup, beaucoup. Mon rêve, ça serait d'écrire une ritournelle, vous voyez. Je ne suis jamais arrivé à faire ça. Mais une ritournelle, une chanson qui... Une fois qu'on l'entend, eh bien, on peut pas ne pas la répéter, quoi. Ça, c'est l'air du temps. Et ceux qui savent écrire des ritournelles, c'est ceux qui captent l'air du temps, comme ça. Et ça, c'est mon idéal d'écriture. Je n'y parviendrai jamais, je suis sûr.
Et le parfum aussi. Le parfum et l'air du temps. Et d'ailleurs, vous en parlez.
Oui, j'adore le parfum.
Ces parfums qui vous viennent, qui vous... J'ai toujours eu horreur des foules qui s'en prennent à des personnes isolées.
Ah, voyez, je l'ai même écrit.
Eh ben, je vous cite, Toby Nathan. C'est physique, ça me donne envie de gerber. Était-ce les séquelles des émeutes que j'avais entendues se déchaîner dans les rues du Caire et leurs pogroms ? Et on sent que vous faites justement, parce que là on parle de sensations, et il y en a plein dans votre roman, Toby Nathan. Vous reconstituez le puzzle un peu de vos sensations.
Oui, c'est vrai.
Présentes et passées.
C'est vrai. C'est écrit un peu comme un puzzle. À la fois, c'est complètement linéaire, parce que on raconte mai 68, quoi.
Oui,
c'est
voilà.
Linéaire.
Ouais, c'est linéaire.
Et en même temps, il y a des fragments de vie qui surgissent et qui ensuite s'assemblent progressivement pour constituer un tableau. Et ce tableau, je suis dedans.
Voilà, ou une fresque vivante.
Une fresque vivante.
Une fresque vivante. Votre rapport à l'autorité, ben non, je ne le savais pas. Pourtant, les flics, je les avais affrontés bien des fois lors de nos actions. Mais ils ne m'avaient jamais rattrapé. Je cours comme un lapin, tout pareil, très vite, en zigzag, avec des volte-face. Les potes m'appelaient Speedy, comme la petite souris des dessins animés. J'approchais jusqu'à leur tirer la moustache et partais ensuite comme une flèche. Donc c'est cette notion de rapidité, de jeunesse, de slalom, on pourrait dire, c'est un slalom aussi de votre personnage, parce que quand il va à la Sorbonne, là, qui tombe sur une scène ahurissante, je ne sais pas si vous pouvez la raconter, mais enfin c'est vrai qu'il y a des morceaux, il y a des entr'actes, on va dire. C'est très...
C'est-à-dire, c'est des scènes réelles. Hein,
mais la vie est un roman avec vous.
Oui, bien sûr. Alors, il y a j'imagine que c'est à celle-là que vous faites allusion, c'est quand le vieux maître est intervenu à l'Odéon, quoi.
Ouais.
C'est-à-dire que il y avait à l'Odéon, c'était sitting permanent, hein, au théâtre de l'Odéon. C'était sitting permanent. J'y étais souvent, et donc c'était, je sais pas, 2000, 3000 personnes qui étaient là dans l'Odéon, qui faisaient tout, qui bouffaient, qui fumaient, c'était un désordre indescriptible, c'était la foule, là c'était la foule, et on était quelques-uns à avoir convaincu un vieux maître dont on pensait qu'il était très intelligent et que ça profiterait à nos camarades de l'entendre parler. Et il est arrivé, le vieux maître, et il a dit tout ce qu'il fallait pas dire.
Voilà.
Et donc, on a failli le lyncher, quoi. Et on a dû l'exfiltrer, quoi, de Manu Militari, quoi. Parce qu'il s'est mis à leur dire, vous êtes manipulés par le KGB. Alors, c'est-à-dire, tout le monde était marxiste, tout le monde était en train de faire la révolution, et lui, il vient, il leur dit, vous êtes manipulés par le KGB. Donc, évidemment, ils ont pété un câble, quoi.
Et c'est un personnage à contre-temps, ce vieux maître. Et puis, il y a beaucoup de personnages, d'ailleurs, à contre-temps, malgré tout. Ben, même si on est dans l'actualité...
Personnage ressemble beaucoup au maître que j'ai eu.
Oui.
Ce n'est pas lui, hein, parce que y a plein de choses qui ne sont pas lui, mais il lui ressemble. Hein. J'étais en thèse, j'ai passé ma thèse avec Georges Devreux. Je me souviens très bien que dans le séminaire, nous étions tous d'extrême gauche, et lui, il disait qu'il était de droite. Et donc, nous, on l'aimait beaucoup, mais n'empêche que quand on discutait politique, on n'était pas du tout du même avis. Mais en même temps, je ne comprenais pas, parce que qu'est-ce qu'il fichait tout le temps avec des gens de gauche s'il était de droite ? Alors, je lui ai inventé une arrière-vie, si vous voulez, parce que je comprenais pas comment ça se faisait que ce type qui disait qu'il était de droite, il fréquentait que des mecs d'extrême gauche, que tous ses copains étaient d'extrême gauche, ses étudiants étaient d'extrême gauche, mais qu'est-ce qu'il faisait avec nous, quoi.
D'ailleurs, ce maître est très mystérieux, puisque son identité, vous la découvrez bien longtemps après. Enfin,
oui, c'est vrai.
C'est un homme palimpseste, on peut dire. Enfin, il y a beaucoup de stratifications. Il y a beaucoup de.
C'était un homme très compliqué.
Très compliqué, mais vous les aimez bien, les êtres compliqués.
Oui, c'est vrai, hein. C'est vrai.
Toby Nathan, on va faire encore une pause musicale. Vous voyez, aujourd'hui, nous faisons beaucoup de pauses musicales. Alors, je ne sais pas où on va partir.
Ben, elles sont très belles, hein, ouais. Ces pauses musicales.
Alors, nous allons partir. Nous allons revenir en 1957. Vous aviez 9 ans, si j'ai bien compté, et c'était une époque de votre exil. Et c'est de la musique orientale juive du Yémen. Et c'est de la flûte.
Vous êtes bien sur Radio Libertaire 89.4 et vous écoutez l'émission Bibliomanie. Nous sommes aujourd'hui avec Toby Nathan et nous parlons de « Et si c'était une nuit ?». Ça vient de paraître aux éditions Stock. Toby Nathan, c'est vrai, il y a un autre titre. Il y a un côté balzacien aussi un petit peu dans votre livre. Je pense aux illusions perdues. Il y a les illusions, vous montrez ces illusions. On parlait des djinns, on parlait des mirages, des apparitions. Les illusions de mai 68 aussi, elles sont là, hein, dans votre livre. Par exemple, les images de la Révolution. Vous parlez de Che Guevara, à un moment donné. Vous dites, signe des temps, en place des évangiles, la nouvelle religion avait commencé par une photo. C'est vrai que cette fameuse photo de Che Guevara...
Ah ben, terrible.
Ouais.
Ben, c'est-à-dire, c'est là qu'a commencé le mythe Che Guevara. C'est-à-dire, une photo, je sais pas comment...
Enfin, allez, c'est
le hasard de cette photo,
ouais,
quoi.
Ouais.
C'est-à-dire, on a pris la photo de Che Guevara mort, c'était les militaires voulaient prouver qu'ils avaient bien tué Che Guevara et qu'ils pensaient avoir tué la révolution.
Enfin, ils n'ont pas tué la révolution.
Ben, c'est ça. Et bizarrement, sur la photo, il a l'air vivant.
Ouais.
Donc il naît un mythe que même mort, il est toujours vivant. Et donc là, la révolution est partie encore plus fort, quoi.
Avec ce regard de Che Guevara, même qu'on
C'est vrai, quoi. C'est étonnant.
C'est fou,
cette
ouais.
photo où il est mort, où ouais, il a l'air ouais. complètement vivant, quoi.
Ouais.
Et serein. Vivant serein. Et serein.
Ouais.
Et ça, je sais pas, ils auraient dû faire attention avant de publier cette photo.
Alors, vous dites, les étudiants avaient pris l'habitude de ces vieux professeurs, justement, c'est dont on parlait tout à l'heure, en contrition, tentant de reprendre leur place malgré la révolution en marche, en se rabaissant à honorer la médiocrité en espérant séduire la foule. Parce que chacun joue un rôle. Il y a des jeux de rôle dans mai 68.
C'est-à-dire que comme ça a commencé à l'université, mai 68, ça a commencé à l'université, où on a remis en cause les professeurs. Et donc, il y a ceux qui ont dit, moi je ne joue pas ce jeu-là, je suis un professeur. C'était très rare. La plupart des autres on commençait à se soumettre, en fait, hein, aux jeunes, quoi, aux gamins qui leur disaient « tu sais rien, tu sais pas plus que nous ». Et ils commençaient à dire « oui, vous avez raison, ma science est une fausse science, etc. » Et c'était délirant, quoi.
Ça sonnait faux.
Ben, ça sonnait complètement faux. On voyait bien que c'était de la compromission. Ouais. Et ça faisait tomber à la fois le prof et la discipline qu'il enseignait, quoi. Et je pense que l'université s'est jamais vraiment remise de ça. Aujourd'hui encore, la validité des pensées universitaires est contestée parce que ce jour-là, elle n'a pas su tenir la tête haute, quoi, en fait.
Et puis, alors vous dites, il y a l'autre illusion de l'apprentissage, du savoir aussi. Enfin, vous en parlez, hein, à chaque fois.
Bien sûr.
Je voulais aller plus loin, je voulais apprendre. À l'époque, je ne savais pas qu'on n'apprend jamais, justement, qu'on réapprend seulement. Je voulais étudier, non pas les banalités adonnées par les instituteurs de la pensée. Voilà, vous vouliez apprendre réellement, c'est-à-dire être dans la vie.
C'est ce que m'a permis ce vieux maître-là. Ce que je raconte dans le livre et qui est en fait vrai, parce que c'est ce qui m'est arrivé aussi. Et je suis allé à l'école, hein, comme tous les gamins, j'ai fait le lycée, j'ai fait la fac. Pendant tout ce temps-là, j'ai rien appris. Je peux vous dire, c'est sûr, à l'école, on n'apprend rien. Et puis quand arrive un maître et qui vous guide dans cet apprentissage et qui vous montre que ce que vous êtes en train d'apprendre, c'est à l'intérieur de vous.
Oui.
À ce moment-là, il y a quelque chose qui se passe. Et tout d'un coup, en quelques mois, j'ai tout appris.
Oui, voilà, c'est ça. Ça a été votre naissance, encore une autre naissance.
Exactement, exactement. Et ça, c'était une naissance initiatique, quoi. Bon, je ne pense pas qu'il l'ait fait volontairement, ce vieux maître-là. Il n'avait pas l'intention de m'initier, quoi. Il avait l'intention d'avoir un thésard, quoi. Bon, et moi, j'ai pris ça comme une initiation, en fait.
Oui, c'est pour ça que... Alors, il y a aussi alors, l'univers des rêves qui vient aussi à vous. Et je sais que les rêves, vous en parlez dans ce livre ethno-mythologique, Toby Nathan.
Bien sûr.
Petit objet du quotidien. D'ailleurs, vous dites, on ne fait pas jamais... En France, on dit, je fais un rêve, alors que les Grecs anciens disaient qu'ils voyaient en rêve. Et qu'en arabe, on dit, j'ai vu un rêve. Et en hébreu, on dit même, j'ai rêvé un rêve.
Oui, c'est vrai. Mais c'est vrai, c'est exactement comme ça. C'est-à-dire que la France, ils n'aiment pas les rêves, quoi. Enfin, pas la...
C'est le côté cartésien.
Pas les Français, hein.
Oui, oui.
Je veux dire, la pensée en France, la pensée officielle. Les gens, c'est variable. Il y a des gens qui aiment leurs rêves, d'autres qui ne les aiment pas. Mais la pensée en français n'aime pas le rêve. Et c'est pour ça qu'on dit « je fais un rêve » comme si c'était soi-même qui faisiez le rêve. Mais ce n'est pas vous qui faites le rêve. C'est-à-dire, un rêve, ça s'impose à vous. Je veux dire, c'est pas vous qui choisissez les images de votre rêve. Elles viennent sans que vous les ayez réclamées et sans que vous les ayez pensées. Elles s'imposent à vous.
Comme un roman.
Exactement. Et donc, dans les autres langues, ils savent ça. Ils disent, je disais en arabe ou en grec ancien, on dit j'ai vu un rêve, ça s'est imposé à ma vision, j'ai vu un rêve, quoi. Mais ça veut pas dire que c'est moi qui l'ai fait, hein. Et en hébreu, c'est vrai qu'on dit j'ai rêvé un rêve, quoi. C'est vraiment quelque chose à part, quoi. C'est un truc à part, quoi.
Et à un moment donné, donc regarde, quand tu fais un cauchemar, tu es content de t'éveiller. Dieu t'a envoyé ce cauchemar pour que, au réveil, tu penses que la vie est bonne. Un cauchemar, c'est un cadeau de Dieu. Alors qu'un beau rêve, voyez-vous, c'est une punition de Dieu, oui, car au réveil, le monde t'apparaît bien terne comparé aux délices que tu as goûtées en rêve. Et c'est vrai que mes 68, finalement, il y a le rêve et l'écueil de la réalité.
Alors, c'est vrai que ça s'est passé comme ça, quoi. C'est-à-dire que pendant un mois, on était joyeux, heureux, même si on s'en prenait plein la tronche, hein. Prenait des coups. Il y a beaucoup de mes camarades qui se sont fait embarquer, qui ont passé des nuits au poste, qui se sont fait bousculer, parfois sévèrement, par la police. Donc c'était dur, mais c'était dans la joie. Et puis après, quand ça s'est terminé, c'était très très triste. La chute après mai 68, c'était très triste. C'est vrai que c'était comme un rêve, et puis quand ça s'est arrêté, la chute était difficile.
Ouais, difficile. Je crois que c'est Mathias qui nous expliquait en déclinant les exemples piochés tant chez les Grecs de l'Antiquité que chez les Indiens d'Amérique, que l'idéologie avait exactement la même fonction que la drogue, rendre possible l'emprise d'un dieu obscur, tyrannique et violent, un dieu exigeant, sa raison de jeunes gens en sacrifice, la différence étant que l'idéologie tuait bien plus que la drogue. Parce qu'il y a aussi la violence dans votre roman, Toby Nathan, il y a aussi la présence de la mort, qui est là. Vous dites, la mort, c'est comme un chien. Si tu la fuis, elle te poursuit. Tends-lui la main, plutôt, laisse-la renifler, retourner autour de toi, japper de peur ou de joie. Donne-lui un os à ronger, elle te laissera partir en ricanant. Voilà. Et c'est vrai que il y a la jeunesse, il y a la violence, il y a la vieillesse aussi. Parce qu'il y a des personnages âgés qui
oui,
sont là.
Oui, bien sûr, oui.
Et vous recueillez vous souvenez voilà de leur présence, de leurs paroles, de ce qu'ils vous ont transmis. Vous parlez aussi de votre grand-père maternel, qui a le père de ma mère, le docteur Zakaria, qui avait fait ses études de médecine à l'université américaine de Beyrouth, dénoncer ses diagnostics qu'en anglais.
Oui, exactement. Mais c'est vrai parce que c'était super classe, hein. Avoir fait ses études à l'université américaine de Beyrouth, au Caire, je vais vous dire, c'était classe de classe. Hein.
Ouais.
Et donc, pour bien montrer qu'il n'était pas comme les autres docteurs, quand il faisait un diagnostic, il le disait en anglais.
Chic.
C'est très chic.
Très chic. Et puis, il y a des souvenirs qui reviennent. C'est pour ça qu'il y a le mélange des temps. Vous vous rappelez d'un vertige que vous avez eu enfant? Sorte de coup de soleil, oui, d'insolation.
Oui, c'est vrai. En plus, c'est vrai.
J'ai pensé...
En plus, je l'ai vraiment eu, quoi.
Voilà. Et ça donne une scène absolument où toute votre famille se rassemble autour de vous. Enfin, c'est le souvenir, hein,
oui,
je vous parle.
Oui, bien sûr.
Je m'en souviens qu'elle se dissolvait les étincelles du soleil qui s'étaient introduites par effraction dans mon cerveau. Tout le monde s'agitait autour de moi. Ils étaient tous en ébullition. Et à ce moment précis, donc, avec plein soleil... Et il y a des réminiscences comme ça qui vous viennent.
Mais vous savez, en Égypte, vous pouvez mourir d'un coup de soleil.
Ouais,
hein,
ouais.
Parce que il fait 40 degrés l'été, au moins 40 degrés, et le soleil, il tape très très fort, quoi. Hein. Et donc, on ne sort pas son chapeau, on fait attention, enfin, etc. On ne reste pas trop longtemps dehors, parce que quand le soleil est fort, quoi, quand il est dans les heures de midi, quoi. Et évidemment... que les gamins, ils le font quand même, quoi. Bon. Et donc, j'ai pris un jour un coup de soleil, et alors ma mère avait une façon de faire partir les coups de soleil que lui avait appris sa propre mère. C'était de faire couler de l'eau salée dans les oreilles, et c'est vrai que ça faisait pshh. Et ce pshh là, moi, j'avais l'impression que les étincelles de soleil qui étaient entrées. Elle s'échappait en faisant pshh, comme ça.
Puis il y a aussi une autre anecdote. Tout le monde a trois lignes dans la paume de la main qu'on appelle ligne de tête, ligne de vie, ligne de cœur. Et bien moi, je n'en ai qu'une seule dans chacune de mes deux mains. Parce qu'on s'aperçoit, je ne sais pas si c'est...
Regardez.
Ah ouais.
Regardez votre main. Ah non, vous en avez trois, mais
ouais.
Bon.
Voilà, mais... j'ai pas de chance, moi. Que ce soit mon fils. On vous appelait l'enfant de la chance.
Ben oui, parce que c'est de la tradition musulmane, en fait. Hein. Donc, on partageait plein de choses avec les musulmans, bien sûr. Et donc, c'était la tradition musulmane, on appelle ça les zuhéri, c'est-à-dire les enfants chanceux, quoi. Mais en fait, vous savez que, en vérité, il y a les enfants chanceux, comme on dit, et puis les mongoliens aussi, qui ont juste une ligne.
Ah.
Donc, c'est que je suis un peu mongolien aussi, hein, sûrement.
Je pense, enfin bon, ne l'oublie pas, apprends qui tu es, pourquoi tu es en vie et promets-moi qu'un jour, voilà, tu feras, c'est la connaissance de soi, connais-toi toi-même, Toby Nathan, ce livre, ce roman, et si c'était une nuit, est-ce qu'on peut dire que c'est un livre miroir? Est-ce que c'est, il y a une fonction comme ça de, parce que je vois des reflets, je vous dis, c'est, il y a le présent, le passé, l'actualité, les temps sont mêlés quand même, tout en étant très linéaire, votre roman, est-ce que il n'y a pas une fonction comme ça, un peu d'écriture en miroir?
Bon, je sais pas, ça je sais pas vous répondre, c'était pas l'intention en tout cas.
Ouais.
L'intention, c'était ce qui m'a décidé à écrire ce livre, c'est les émeutes qui se répètent dans les banlieues, où je vois ces gamins qui me ressemblent, en fait, hein, c'est-à-dire des gens qui ont migré, ou dont les parents ont migré, et qui n'arrivent pas à trouver leur place quoi, dans le monde, et qui, à un moment donné, passent à l'action violente, quoi. Et donc, j'avais envie de leur dire quelque chose, quoi. C'est ça qui m'a décidé à le faire. Donc, la vraie intention du livre, c'est celle-là.
C'est celle-là.
Mais évidemment, je me sens pas autorisé à faire la morale à personne, donc j'ai parlé de moi. Quoi.
Ouais. Est-ce que l'écriture de ce livre, est-ce qu'elle vous a changé? Est-ce que vous sentez qu'à chaque écriture d'un livre, vous
sentez... Complètement. Complètement. Je me demande même si j'arriverai encore à écrire.
C'est le temps du roman, c'est pas le même que le temps d'écriture d'un essai, par exemple.
Ça n'a rien à voir. Voilà. Ça n'a rien à voir. C'est beaucoup plus difficile pour moi d'écrire un roman qu'un essai, hein. Parce que il faut rentrer dedans, et parfois c'est très très long à rentrer dedans. C'est une possession, hein, l'écriture d'un roman. Il faut se laisser posséder par les personnages, et une fois que vous êtes possédé par les personnages, à ce moment-là, c'est eux qui écrivent l'histoire. Mais il faut qu'ils prennent la place, toute la place. Si c'est vous qui maîtrisez l'écriture, vous ne le ferez pas à votre roman. Il n'arrivera jamais à terme. Ouais. Il faut qu'à un moment donné, vous ayez laissé la place aux personnages, et c'est eux qui écrivent à ce moment-là. Et là, ça vient, quoi. Donc c'est beaucoup plus compliqué. Alors que quand j'écris un essai, c'est moi qui l'écris, hein. C'est personne d'autre que moi. Alors, voilà.
Est-ce que là, d'autres voix, on sent cette multitude
bien
de voix.
Bien sûr.
Une sorte de magie d'envoûtement par toutes ces personnes, ces présences.
C'est les personnages qui écrivent. Hein, ouais. Ça, c'est évident. Hein. Moi, ça me paraît évident. Et on sent, à un moment donné, quand les personnages ont pris le contrôle, ça vient beaucoup plus facilement. C'est presque automatique, quoi. Ça vient tout seul, quoi. Alors qu'au début, phrase après phrase, vous savez pas si vous allez terminer même la page, quoi. C'est terrible. C'est une grande souffrance, l'écriture. Un grand plaisir aussi, hein. Mais une grande souffrance aussi.
Alors, on va faire une petite pause musicale. Je sais pas si on a le temps, peut-être, oui.
Ça va être juste.
Ouais, bah, alors, il y a une émission après.
Eh ben, on fera une pause musicale vers 25, alors.
D'accord. Ah. Un petit peu avant, il faut laisser l'émission d'après s'installer.
Ok. Bon, alors, on ne fait pas de pause musicale. Vous voyez, c'est la magie du direct. Non, parce que j'ai d'autres questions à poser à Toby Nathan. Je voudrais qu'on revienne, donc, parce qu'il y a cette notion de... Alors, le roman, et je voudrais qu'on revienne à ce petit livre ethno-mythologique, Les petits objets du quotidien, qui peut être un complément, d'ailleurs. C'est comme une petite boussole, ce livre. Hein.
Oui, si vous voulez.
Alors, je lis aux auditeurs. Par exemple, vous parlez, il y a une notion, on parle beaucoup d'intelligence artificielle. Et vous vous dites, en vérité, l'intelligence surnaturelle, il n'a jamais existé, ni autrefois, toutes les intelligences sont artificielles. Donc je parlais tout à l'heure de votre capacité à voyager dans les mots, à les retourner, à les explorer, un explorateur du langage. Et c'est vrai que cette notion d'intelligence artificielle, dont on parle beaucoup,
bien sûr.
Vous vous dites, elle a toujours été là.
Non, mais c'est-à-dire que on fait comme si on avait de l'intelligence dans le cerveau, et que cette intelligence-là nous faisait réaliser des objets, des choses, des systèmes, etc. C'est pas du tout comme ça que ça marche, hein. C'est, on fabrique des objets, et les objets nous obligent à penser. En fait, c'est donc la fabrication qui précède. Donc, en fait, tout est artificiel. C'est-à-dire, si vous aviez pas d'objets, vous penseriez pas, tout simplement. Vous n'auriez rien à penser, quoi. Ouais. Et donc, les objets, les systèmes, la construction sociale aussi, hein, qui sont des constructions, précèdent l'intelligence. C'est ça qu'on discute, en fait. Mais si on n'a rien à discuter, eh ben, on n'a pas d'intelligence possible, quoi. D'accord. Sitôt qu'apparaissent les objets, l'intelligence arrive derrière.
Ouais, c'est pour ça que vous écrivez, il n'existe rien dans nos cerveaux, c'est notre très grande richesse, ce rien-là.
Exactement.
Tout se trouve dans nos objets, c'est notre fragilité. Revenir à sa fragilité, à la conscience de sa fragilité, c'est important pour vous, Tobias?
Non, mais parce que c'est-à-dire notre fragilité, ça veut dire que si on nous retirait les objets, on ne saurait plus rien faire.
Ouais.
Imaginez que demain, tout soit détruit, et que vous n'ayez plus ni téléphone, ni électricité, ni conduction d'eau, ni rien du tout, rien de tout ça. Vous auriez pu rien faire, quoi. Mmh. Vous n'existeriez plus. Donc on est totalement dépendant de ces objets, de plus en plus d'ailleurs.
C'est pour ça que vous avez voulu écrire ces petits traités des objets du quotidien.
Il y a des objets qui sont incroyables, quoi. Par exemple, votre smartphone, par exemple.
Il fait tout. Enfin, il fait tout. Presque tout.
Je veux dire, vous rappelez plus un seul numéro de téléphone. C'est votre smartphone qui sait, qui connaît les numéros de téléphone. Vous notez plus aucun rendez-vous. C'est votre smartphone qui les connaît. Enfin, etc. Donc, on vous retire votre smartphone. C'est terminé. Tout ça, c'est fini. Mmh. Et c'est un exemple typique, le smartphone, qui vient et qui vous oblige à penser à partir du smartphone.
Vous parlez aussi du don, par exemple. Le don est un présage. Ah. Il se révèle parfois le destin dans lequel on se tend. C'est important aussi le don de vos personnages. Vous les cherchez.
Évidemment. Hein. C'est très, très important. Les noms sont très importants pour les gens comme pour les personnages. Pour les gens, beaucoup plus, bien sûr. Vous savez, je travaille souvent avec des patients qui viennent du Congo. Et l'ancienne tradition du Congo, dont certains des gens que je vois se souviennent encore ou ont été nommés comme ça, on nomme quelqu'un à partir de ce qui est arrivé à sa maman pendant sa grossesse. Alors, vous voyez, donc il y a une personne qui s'appelle « On a beaucoup souffert ». C'est-à-dire, du temps que ma mère était enceinte de moi, il y a eu beaucoup de problèmes au village, on a beaucoup souffert, et dans la famille, il y a eu plusieurs morts pendant ce moment-là, et la personne contient ce souvenir.
C'est lourd.
Donc, bien sûr, c'est lourd. C'est lourd, et en même temps, c'est très pratique, parce que quand ils vont mal, vous ouvrez le nom, et...
Il y a la clé.
Et vous avez la clé, voilà, exactement. Clé.
Les Congolais, dites-vous, construisent un point métamorphosique lointain, là, Deleuze disait, une ligne de fuite conduisant de l'homme à cette tête étrange et composite appelée fétiche. En un mot, l'homme est inscrit dans un devenir fétiche. Est-ce que vous êtes fétichiste, vous, Toby Nathan ?
Non, fétichiste au sens français du mot, oui. Pas du tout. Non. Mais les fétiches, ce qu'on appelle les fétiches, c'est une dérision de dire les fétiches. Parce que fétiche, ça vient du portugais fétiço, qui veut dire factice, en fait. Hein. Les Portugais se moquaient des statuettes des Africains en disant « Mais c'est factice, vos dieux, là, ils sont factices. » Et moi, j'ai toujours été étonné que les Africains ne leur répondent pas « Et ta médaille de la Vierge, là, que t'as autour du cou, elle est pas factice aussi ?» Mais je sais pas s'ils l'ont pas fait, d'ailleurs. Genre. Ouais. En tout cas... Je parle des fétiches, ces objets qu'on fabrique encore aujourd'hui en Afrique et qui ont une puissance qui peut agir sur le monde, quoi.
Objet inanimé, avez-vous donc une âme ?
Justement. Alors, quand je vous parlais du smartphone, notre smartphone, il ressemble beaucoup plus à un fétiche qu'à une pensée complexe philosophique, hein.
Et vos rapports avec vos lecteurs, Toby Nathan, vous avez recevez des lettres, des courriers de lecteurs abondants comment ça se passe?
Moi, je suis beaucoup sur les réseaux, donc c'est surtout sur Facebook, oui. sur Instagram, là. Oui, j'échange beaucoup avec eux, mais là-dessus, quoi. On n'en voit plus de lettres aujourd'hui.
Ah, malheureusement. Il y a une prochaine rencontre, je crois. Vous m'avez parlé au Havre, c'est
ça? Oui, le 10 novembre, je vais à la librairie La Galerne, au Havre, pour présenter mon livre. C'est une librairie géniale où il y a des rencontres régulières et où il y a plein de gens qui lisent, quoi. Parce qu'il y a encore des vraies librairies en France où les gens lisent et ensuite viennent pour discuter avec les auteurs de ce qu'ils ont lu. Et j'y suis déjà allé à plusieurs reprises à cette librairie et j'ai eu une rencontre avec des lecteurs merveilleuses et j'adore ça, moi.
Donc on peut aller sur votre site parce que je sais que vous avez un site,
oui,
je pense,
absolument.
Où il y a tous vos prochains rendez-vous.
Absolument.
Je dis ça pour les auditeurs qui veulent vous rencontrer, vous lire, et ils vont d'abord en librairie pour acheter vos livres. Il y a un projet en cours, Toby Nathan, où vous laissez toujours un laps de temps entre vos livres pour renaître d'une vie à une autre, puisque de livre en livre, vous changez de vie aussi.
Oui, bien sûr que j'ai des idées, que j'ai même commencé un peu, mais je ne vais pas vous dire ce que c'est.
Oui, c'est mieux le secret.
D'abord, c'est mieux le secret, puis ça me laisse la possibilité de changer, quoi. Parce que peut-être que je vais avoir une autre idée après qui me paraîtra plus urgente.
En tous les cas, merci à vous, Toby Nathan, pour « Et si c'était une nuit ?» C'est un roman. Ça vient de paraître aux éditions de Stock. Et puis, il y a la boussole dont j'ai parlé tout à l'heure, ethno-mythologique, petits objets du quotidien, avec des dessins d'ailleurs.
Oui, très, très bien. C'est pas moi qui dessine. Hein.
Non, non. Mais ils sont très bien. Oui. Et avec, c'est comme un petit traité ou un petit dictionnaire. Derrière, il y a Flipper, justement. Nous en avons parlé de cette fameuse boule de Flipper.
Absolument.
Qui est aussi paru aux éditions Stock. Voilà, c'était l'émission Bibliomanie. J'espère être dans les temps, puisque nous sommes Chronos, nous rattrape. Et je vous dis, donc vous pouvez écouter l'émission sur le site de Radio Libertaire en podcast. Et voilà, puis je vous dis à la fois prochaine. Et surtout, allez en librairie. Merci
alors,
à vous tous.
La transition. Ça va être le grand souffleur de jazz, Yom. Qu'est-ce que ça veut dire, Yom, en hébreu, Toby Nathan ?
J'ai pas entendu.
Yom, qu'est-ce que ça veut dire
Yom,
en hébreu ?
Yom, ça veut dire jour. Alors, par exemple, on dit Yom Tov, bonjour.
Eh bien, c'est Yom, le clarinettiste, qui joue un titre qui s'appelle The Old Man, le vieux monsieur. Vous en avez beaucoup parlé des vieux monsieur. C'était en 2016. Au revoir.
Merci beaucoup. Thank you.
son jour de travail. Le soir n'aspirera qu'un peu de sommeil. Tous deux s'endormiraient, chaque soir en rêvant, à leur bonheur passé, à leurs amours.
Radio Libertaire 89 ou 89.4.